Big Flo et Oli. Tu connais, non? Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux. Que les cils sur mes joues avaient le pouvoir d'exaucer les vœux. Quand j'étais petit, je pensais que les adultes disaient toujours vrai. Et la nuit, dans la voiture, je pensais que la lune me suivait. Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Quand j'étais petit, j'entendais un monstre qui vivait sous ma maison. Je pensais mourir dans la lave si je marchais pas sur le passage piéton. Qu'à l'époque, les photos en noir et blanc, les gens vivaient sans couleur. J'étais sûr qu'un bisou de ma mère pouvait soigner la douleur.
Mais depuis, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas.
Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire. Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière. Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle. Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels.
Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose.
On disait,
tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard et je comprends pas. Plus tard, 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 plus tard.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Tintouin. L'émission aujourd'hui qui s'appelle Fréquence Môme est une émission qui est animée, gérée, préparée par des enfants de l'école Notre-Dame Saint-Joseph. Ils sont en CE2 CM1 et ils ont choisi deux invités lors de cette émission. Le premier invité que nous accueillons, qui est Madame Juliette Boucher. Bonjour. Qui est écrivain, écrivaine, autrice, on dit comme on veut, qui publie plusieurs romans, qui a déjà publié combien de romans déjà?
Là, ça fait le quatrième livre.
Quatrième livre, qui sont systématiquement des romans jusqu'à présent?
Oui.
Alors, on va en parler tout à l'heure. Et donc, ces enfants ont préparé une série de questions pour Madame Boucher à l'occasion de votre sortie, le dernier roman que vous avez sorti, qui s'intitule
« Mon cœur vient du désert d'Atacama ».
Voilà, c'est un roman d'anticipation, un roman de science-fiction.
Oui, tout à fait.
Et donc, on aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà, j'accueille donc les enfants qui sont avec nous de cette école. Ils sont là concentrés, ils ont une douzaine de questions à vous poser. Violette, future écrivaine aussi,
ah,
c'est ce qu'elle dit,
enchantée,
va vous poser la première question. Alors on t'écoute, Violette.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier d'écrivain?
Ah, ben, en fait on ne choisit pas ce métier d'écrivain. Donc ce métier te tombe dessus un petit peu, c'est-à-dire que j'ai commencé à écrire très très jeune. Vers 7-8 ans. Enfin, dès que j'ai su écrire, j'ai tout de suite écrit des poèmes, des rimes. Le vocabulaire m'intéressait beaucoup. J'étais très curieuse de découvrir tous les mots qui pouvaient permettre d'exprimer de manière la plus précise possible chaque sentiment et chaque idée. Donc j'avais ce qu'on appelle un cahier de vocabulaire dans lequel je notais tous les mots que je ne connaissais pas et après je notais la définition du mot. C'est venu comme ça. Et en fait, j'ai toujours écrit. Donc,
Le plaisir de raconter des histoires aussi ?
Non, pas forcément. Non, le plaisir de m'immerger dans des univers.
Donc, je suppose, grande lectrice, jeune déjà ?
Pas forcément. Alors, jeune, oui. Beaucoup moins maintenant, parce que le temps manque. Ouais. Mais petite, oui, je lisais beaucoup, très jeune. J'avais des parents qui nous ont vraiment permis d'avoir un environnement littéraire très riche et très diversifié. Et puis des grands-parents qui étaient comédiens de théâtre, donc il y avait aussi une culture assez riche de ce côté-là. Donc on a tous toujours lu dans la famille.
Donc les livres étaient vraiment présents dans la famille, c'est quelque chose qui...
Les livres ont toujours été présents, oui. Alors c'est vrai qu'on se pose pas la question tant qu'on nage dedans, et c'est quand on découvre d'autres univers où ils sont complètement absents que là on se réjouit d'avoir eu cette chance-là.
Alors, Cyrine, une autre question.
Quel genre de livre écrivez-vous ?
Quel genre de livre j'écris ? Alors, en fait, j'écris des histoires qui n'existent pas. Donc, des fictions, ça s'appelle. Alors, en sachant que dans les fictions, on se sert toujours soit de gens qu'on a rencontrés, soit de choses qu'on a envie de dire. Mais donc, on invente des personnages pour faire dire ces histoires, dire ces choses qu'on aurait envie d'exprimer. Et puis, voilà, des histoires de fiction, de science-fiction. Moi, j'aime bien mettre beaucoup de science-fiction dans ce que je fais.
On est dans un univers encore de l'au-delà, plus tard, comme disait Big Flo Lee.
Oui. Alors ouais. Ça vient aussi des références de ma jeunesse.
Ouais, bien sûr.
Les années 80. Ouais. Enfin, là, c'est en termes de science-fiction, c'était un petit peu...
C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, la science-fiction... À des difficultés à s'implanter en France à travers les romans.
Alors,
moins reconnu.
Oui, et moins reconnu. Alors, apparemment, l'autre jour, on me disait dans une interview que vraisemblablement, alors j'ai pas vérifié l'info, mais que je serais la seule femme française à faire de la science-fiction aujourd'hui. Alors, ça me paraît complètement. Oui, je pense qu'il faudrait vérifier, hein, mais ce serait vraiment incroyable.
Par rapport au nombre d'auteurs qu'il peut y avoir.
Alors, c'est vrai que c'est un genre qui est complètement reconnu et aux États-Unis, enfin, ou même dans plein de pays différents. Mmh. En France, c'est vrai qu'on a cette espèce de culture du huis clos, du témoignage. On aime beaucoup tout ce qui est vrai.
Une culture littéraire beaucoup plus classique. Hein.
Beaucoup plus classique. Ouais. Ouais.
Mmh. Lucas.
À quel âge avez-vous commencé à écrire ?
Alors, j'ai peut-être répondu un petit peu tout à l'heure, mais dès que j'ai su aligner trois mots, en fait. Donc, je pense que CP non, mais en tout cas, mes premiers écrits que j'ai toujours, oui, datent de 8-9 ans.
Vous avez conservé les cahiers, ces choses ?
Oui. Mes grands-parents ont conservé, ma mère, et on avait fait des photocopies de tout ça. Et c'est vrai qu'il y en a qui traînent encore un petit peu partout. Alors, c'était très sombre. J'écrivais des choses très, très sombres. D'ailleurs, mes parents s'inquiétaient un tout petit peu pour moi. On me demandait pourquoi j'écrivais pas des choses joyeuses. Et en fait, pour l'écriture, ce qui était joyeux ne m'intéressait pas. Déjà petite, ça s'est pas vraiment arrangé.
Pour le dernier que vous avez, je trouve pas forcément que ce soit sombre, même dans le dernier roman que vous avez publié. Y a pas des choses...
Alors c'est le plus lumineux.
Ah oui. Moi je trouvais que c'était pas sombre.
Non, celui-là est le plus lumineux de ceux que j'ai écrits. Mais c'est vrai qu'on reste toujours dans un univers, dans un humour noir, grinçant.
Et c'est ce qui, je trouve, vous caractérise. Si vous avez créé, vous avez votre propre style, je trouve, dans l'écriture.
Et là, je dirais que je commence à en voir les contours. Voilà. Mais bon,
Encore une fois, je connais pas les autres romans, mais j'ai trouvé qu'il y avait un style particulier. Et j'allais dire, c'est un peu à ça qu'on reconnaît un véritable écrivain, c'est qu'il a son propre style. C'est comme pour un peintre, on reconnaît facilement un peintre d'un autre.
Bah, il vaut mieux, oui.
Et là, vous avez, je trouve, un style très particulier, qui est vraiment le vôtre.
Oui, en tout cas, l'avenir me le dira, mais en tout cas, là, je sens que je commence à me sentir plus à l'aise.
Comme quoi, il y a du travail pour trouver
son style. Du travail, en fait, il faut écrire tous les jours, hein, de toute façon.
C'est ce que j'allais dire. On va voir, il y a une question par
exemple. Ah, d'accord,
qui est destinée à ça. Okay. Alors, Manel.
Écrire, est-ce que cela demande beaucoup de travail ? Combien de temps y consacrez-vous ?
Alors, écrire, premièrement, c'est pas un travail, c'est une nécessité pour les gens comme moi qui ont ce besoin chevillé au corps. C'est-à-dire que si on n'écrit pas dans une journée ou sur un certain laps de temps, on se sent physiquement mal, puisque c'est la seule manière qu'on a trouvé d'exprimer un certain nombre de choses. Il y en a pour qui ça peut être la peinture, il y en a pour qui ça peut être le sport, mais chacun a besoin de s'exprimer à un moment ou à un autre dans sa vie, et pour se construire, et l'écriture permet ça. Donc à la base, c'est pas un travail. Après, quand on le considère comme un travail, et en tout cas qu'on essaye d'en vivre ou de créer sous différents formats, le roman, la pièce de théâtre, le poème, etc., bien évidemment, là commence le vrai travail. Quelqu'un m'avait dit au début, il faut au moins écrire 30 minutes par jour. N'importe quoi, de la prose. Donc de la prose, c'est un texte dans lequel il n'y a pas de rime forcément, pour ceux qui savent pas ce que
c'est. C'est bien de le préciser. Ouais.
Voilà. Mais écrire tous les jours. Bon, alors moi, ça me pose pas de problème parce que j'écris naturellement tous les jours. Et en période de travail intense sur un roman. Donc un roman, moi, ça me prend. Alors j'en publie un tous les deux ans à peu près, mais parce que j'ai une grande famille avec beaucoup d'enfants que je continue d'en faire, parce que le dernier a 6 mois.
Et un autre est avec nous.
Et il y en a un qui est en face de nous, exactement. Si je dois ramasser le temps d'écriture, ça me prend à peu près 6 mois.
Un roman, 6 mois.
Un roman,
à raison
six
de...
mois d'écriture.
Alors, généralement, c'est pas quelque chose de régulier. Je suppose que c'est, il peut y avoir des journées extrêmement denses dans l'écriture et d'autres, l'inspiration n'étant pas là, c'est plus.
Alors, l'inspiration est toujours là. Ouais. En ce qui me concerne, pour le moment, ben j'ai 4 livres, hein, donc.
Oui, mais.
Par contre, c'est le temps qui me manque cruellement. Donc, 2 ans, sur ces 2 ans-là, bah, je vais avoir des périodes de speed, comme pour le dernier, où il a fallu que je rende mon manuscrit enceinte jusqu'aux yeux. Donc là, je l'ai terminé en 3 mois. Mais sinon, le deuxième, par exemple, c'était de 8 heures par jour pendant 6 mois, sauf le week-end, bien sûr, parce que j'ai les enfants. Mm-hmm. Et après, c'est
et
généralement...
Pas la nuit.
Alors, j'adorerais être un de ces écrivains torturés qui écrit la nuit avec une bouteille de whisky ou de coca.
Ou d'absinthe.
Hein, ou de... Mais je n'y arrive pas. On a 5 enfants, on est une grande famille recomposée.
Donc, il faut se reposer.
Donc, on est obligé de dormir, c'est
bon.
Sûr.
Alors, vous avez le temps scolaire où, justement, vous pouvez écrire. Quand ils sont à l'école, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Alors, bah, Victor, votre fils, vous pose
Quel
une question.
Quel est votre livre préféré dans vos ouvrages? C'est les autres écrivains.
Alors, mon livre préféré chez moi, j'ai envie de te dire que c'est le dernier, qui pour moi est le plus complet.
Le plus abouti, vous pensez,
plus,
vous
le plus abouti, bah oui, c'est le dernier, donc forcément.
Ouais, ouais.
Oui, sans conteste, l'univers est beaucoup plus élargi, puisque dans le premier, c'était un personnage. Dans le deuxième, c'était une famille qui était centrale dans l'histoire. Et là, dans celui-ci, c'est vraiment l'univers. Hein. Donc, je suis passée de 2 à 5 à 8 milliards. Donc, c'est... Et chez les autres, donc...
Alors, oui, votre...
Alors moi, le premier livre qui m'a bouleversée, que j'ai
finalement,
dû
votre
lire,
écrivain préféré ou votre livre préféré, c'est tout ça.
Alors, écrivain préféré, ça va être très dur à dire. Ouais. Dans mon souvenir, en tout cas, le premier qui m'a profondément marquée, c'est René Barjavel. Qui est un auteur de science-fiction. Et c'est vrai que tous les livres qui vont vous marquer dans votre vie, je m'adresse aux enfants là, ce sont ceux que moi j'ai lus enfant. Et au cours de la lecture, tout d'un coup, on s'arrête et on se dit « Mon Dieu, mais je ne savais pas qu'on pouvait écrire ça. Mm-hmm. » Vraiment, quand on sort un peu de la littérature très classique, c'est un grand étonnement de découvrir certains auteurs et des univers... bien plus riche que toutes les séries que vous pourrez regarder à la télé, puisqu'il nous fournit des mots et nous, on pose nos images dessus. Donc, c'est beaucoup plus riche.
Barjavel.
Barjavel.
Robin,
qu'est-ce
avant de faire une pause musicale.
Travail
attends, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Tu disais ?
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail ?
Alors, encore une fois, ouais. Elle va te dire que ce n'est pas un travail.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse ? Bah, la psychanalyse. non, je rigole. Qu'est-ce qui m'intéresse ? Alors, ce qui m'intéresse, c'est pendant que j'écris, en fait, j'échappe complètement à l'existence que j'ai ici. Donc, en fait, je suis complètement immergée dans un monde imaginaire, comme quand vous jouez petit, en fait. Vous avez tous joué à inventer un monde, joué au prince, vous êtes dans une cabane avec votre épée en carton, et etc. Et vous êtes complètement dans votre jeu, et pour vous, c'est 100% vrai, avec vos copains. Et ben moi, c'est pareil. Quand j'écris, je fabrique des personnages, je fabrique des mondes, je fabrique des villes, je change même le temps, puisque celui-là, il se passe dans le futur. Et donc, c'est un énorme jeu d'écrire, pour moi. Je prends énormément de plaisir.
Vous êtes avec vos personnages, votre univers.
Ah oui, alors d'ailleurs, mon mari est...
oui, mais
me le dit souvent, c'est que je reste avec mes personnages, même quand j'ai arrêté d'écrire, quand je suis en période de...
d'écriture intensive.
Intense, oui.
Oui, c'est un univers, c'est toute la famille qui participe quand même un peu.
Oui.
Vous en parlez après, en famille ? Voilà, j'ai tel personnage.
Alors, non, par contre, il me demande où j'en suis, il me demande de raconter l'histoire. Souvent, j'essaye de caser des prénoms de la famille un peu à droite, à gauche, parce qu'ils aiment bien. Donc, l'avant-dernier, c'était... j'avais écrit un roman sur des vampires dont le héros était Raphaël, donc un de mes beaux-fils.
Ouais.
Et là, j'ai un livre aussi qui est sorti le mois dernier, qui est un autre différent d'Atacama. Le héros s'appelle Victor. Donc, voilà, j'essaye de mettre des petits clins d'œil un petit peu partout. Ouais.
Alors, on va faire une pause musicale. Je vous propose d'écouter... une musique que nous a proposée Violette, Les Ogres de Barbac, qu'on connaît un peu sur Vierzon, puisqu'ils sont venus aux Estivales du Canal, je crois, récemment. Et elle nous propose une chanson qui s'appelle Ces petits riens.
Une poupée qui pleure ou un tamagotchi, un pistolet laser, le même coup sur du lit. Je l'idée à Luigi et Mario, tous ces cadeaux, j'en ai déjà bien trop. Le paradis des dessins animés, moins 20% sur le dernier coffret Disney. Nouveau robot, nouveau Made in China, ces cadeaux-là, j'en ai plein les bras. Papa, maman, je suis en pleine croissance pour mes 10 ans, écoutez-moi bien.
T'as mis ton frigel?
Pas pour les déprimer. Allez à l'UGC.
Manger des hamburgers trop gras et trop salés.
Au paradis du centre commercial.
Même à crédit, j'y mettrai plus les pieds.
Emmenez-moi dans une caravane. Pareil qu'il y a des gens qui vivent dans la taille.
Radio Tintouin dans l'émission Fréquence Moum avec les enfants de l'école Notre-Dame Saint-Joseph qui sont présents dans le studio, ils sont venus de leur école, ont préparé toute une série des questions, ils ont préparé l'émission, choisi les musiques pour interroger Juliette Boucher qui est présente avec nous,
Bonjour.
Écrivain de son métier qui, a, qui a fait paraître son dernier roman, qui est...
Mon cœur vient du désert d'Atacama.
J'adore quand vous le dites. C'est pour ça que je vous fais dire. Très beau roman, je vous le conseille. Roman de science-fiction. Et donc, on pose des questions sur le métier d'écrivain. Est-ce que c'est vraiment un métier, d'ailleurs ? Je ne suis pas sûr. Alors, vas-y, Pierre.
D'où vient votre inspiration ?
Alors, principalement des humains, si on veut résumer. Ben non, mais j'essaie. Alors, oui. y a plein de choses qui viennent de moi, bien évidemment, de ma vie, après de la vie de mes proches, après de la vie des gens qui m'entourent. Ça peut être des amis, ça peut être des gens que je croise, ça peut être des situations quotidiennes que je vis, ça peut être une vieille dame que je vais observer à la poste et en fait en l'observant je vais
vous imaginez
sa vie. Voilà.
Ça gamberge pas mal dans une tête d'écrivain, non?
Ah bah ça n'arrête pas, ça ne fait même que ça, c'est assez fatigant.
Ça se repose jamais. Les histoires viennent naturellement. Oui. Enfin, il y a toujours quelque chose que vous racontez.
Oui.
Sur les autres, sur les gens.
Oui.
Sur les vies
oui.
croisées.
Oui. Alors, c'est pour ça que je parlais de nécessité au oui. début de l'entretien. Ouais. C'est que vraiment, quand on a un cerveau comme ça qui est hyper efficient, on va dire.
Ouais. Éveillé, enfin.
Éveillé
aux autres en plus.
En fait, ça permet de canaliser dans l'écriture du roman. Ouais. Ça permet vraiment de se canaliser. Sinon il faut se faire psychanalyser donc ça j'ai fait aussi mais non c'est un formidable outil pour gérer tout ce qui se passe dans la tête et
ce
pouvoir
qui permet effectivement...
en sortir du positif en fait.
Bah oui bien sinon, sûr sortir toutes ces histoires qui sont à l'intérieur, il y a un moment il faut qu'elles sortent d'une façon ou d'une autre, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est soit sous la forme du cinéma, de la peinture, vous c'est l'écriture quoi.
Voilà.
Ouais. Alors mon petit Gabriel, une autre question.
Quel est le thème de votre dernier livre, Mon cœur vient du désert d'Atacama?
On l'aura cité quand même. Hein.
Ouais.
Alors, la thématique. Je voulais juste préciser que vous n'écrivez pas des livres, même si c'est des enfants qui vous interrogent, ce n'est pas de la littérature de jeunesse.
Non, ce n'est pas de la littérature de jeunesse. J'y viendrai peut-être un jour. Ce n'est pas l'envie qui me manque, mais après, ce qu'on sait faire pour l'instant, en tout cas, je ne m'y frotte pas.
Bien qu'il y ait la fille du personnage de votre dernier roman est très présent et il y a un univers enfantin un petit peu des fois, je trouve, avec ce personnage qui l'accompagne, qui a été créé.
Oui. Alors, j'ai très envie de parler des enfants, de parler de tout ce qui les concerne parce que l'avenir est à eux.
Oui, il y a aussi une référence sur l'écologie, sur le monde de demain dans ce livre.
Bah oui, ce livre fait deux parallèles en fait. Il y a l'intelligence artificielle, donc l'évolution des robots. En fait, est-ce qu'ils vont prendre le pas sur l'humain ou pas? Et qu'est-ce que nous, humains, on peut leur transmettre? Et il y a la transmission entre humains, entre plusieurs générations. Il y a une grand-mère, une mère, sa fille, qui se retrouvent coincées dans un sous-terre après que la civilisation se soit écroulée. Je vais pas en dire plus, sinon je vais les déprimer. Mais voilà, il y avait ce parallèle-là de la transmission entre robots et entre humains. Et finalement, la question, c'était...
La thématique de votre livre.
Ouais.
C'était ça.
Où est-ce que ça va se passer le mieux? Est-ce que forcément, ça va se passer mieux entre humains ou mieux entre robots? Voilà.
Alors, Karen...
Que ressentez-vous quand vous écrivez une histoire?
Le ressenti, les émotions, qu'est-ce qui vous traverse?
Alors, ça va encore faire un petit peu bizarre, mais en fait, je ressens tout ce que ressentent mes personnages.
Yes, forcément.
J'ai discuté avec pas mal d'écrivains, forcément, qui font partie maintenant de mon quotidien, et ça a l'air d'être un petit peu le cas pour pas mal d'entre eux, en tout cas ceux qui écrivent un petit peu comme moi, d'une manière un peu brute de décoffrage. Lorsque j'écris, je suis complètement immergée dans l'histoire et avec les personnages. Je ris beaucoup parce que j'utilise aussi pas mal d'humour pour désamorcer les situations. Et au-delà de ça, au-delà de ce que je ressens, c'est un petit peu comme une... C'est pas de la méditation du tout, mais ça s'apparente un peu à la transe, en fait.
Oui, je comprends. Évidemment, comme il y a une vie un peu intérieure, qui va s'extérioriser sur le papier, il y a effectivement quelque chose de...
Bah, c'est une modification d'état de conscience, ça c'est certain. On n'est pas vraiment... on est là, mais on n'est pas vraiment là.
Vous êtes vraiment complètement absorbé, quoi.
Ben, je pense qu'il faut, hein, ouais, parce que...
C'est normal. Voilà. Si on veut se plonger dans l'univers, il faut y être
ben,
pleinement.
Voilà, si on veut faire quelque chose qui tienne la route, il faut embrasser ça.
Alors, c'est Faustin.
Vendez-vous beaucoup de livres en France ou à l'étranger?
Alors,
ça, c'est la grande question.
Quand le concours
Non, alors déjà, pour les prix littéraires, là, je ne pense pas concourir dans la bonne catégorie avec les romans que j'écris. Les ventes de romans aujourd'hui sont en baisse. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a de plus en plus de livres qui sortent, il faut le savoir.
Oui, c'est
on en importe
dense.
Également beaucoup. Il y a beaucoup de premiers romans, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire. La France est un pays de papier, hein, ouais. Tout le monde veut sortir son roman. Donc il y a beaucoup d'auto-éditions. Enfin, il y a une offre qui est démesurée et qui s'est développée vraiment de manière très intense ces dernières années.
Alors qu'il n'y a pas forcément énormément de grands lecteurs.
S'il y a des lecteurs, j'entends plus rien. En fait.
C'est pas grave, de toute façon.
Il y a beaucoup de lecteurs, mais bon, alors ça, après, je suis pas dans les petits papiers des maisons d'édition, mais les ventes, ça va être quelques milliers d'exemplaires. Aujourd'hui, la moyenne des ventes pour un premier roman en France, c'est 200 exemplaires.
200.
Ouais.
Et donc, votre cœur qui vient du désert d'Atacama.
Alors, lui, c'est pas le premier. Sur mon premier, j'avais dû en vendre, je crois, à peu près 1500. Ce qui a l'air complètement ridicule quand on met ça à l'échelle d'un pays, mais ce qui finalement, par rapport à la moyenne des ventes d'un roman, était tout à fait honnête pour un premier roman de quelqu'un qui sort de nulle part. Voilà. Mais après, ça, je dirais qu'on. Si on étudie un petit peu ça, je dirais que pour hors gros coup marketing bouquin qui explose, hein, ce qui arrive et tant mieux, il en faut. Je dirais que en quelques années, je devrais pouvoir avoir un lectorat qui s'étend à 5000 personnes aux alentours de 5, 6, 7, 8 bouquins. Et ensuite, on peut rester comme ça pendant bien des années. Si on dépasse les 10 000, c'est que vraiment, on est un très, très, très bon vendeur. Et après, on va dans d'autres sphères que je ne pense pas atteindre de mon vivant, en tout cas.
Alors là, vous m'avez pas dit combien d'exemplaires pour le dernier?
Ah bah là, il vient de sortir, donc on n'a pas les chiffres de toute façon. Il faut un an.
Vous avez une base de parution, vous lancez sur combien d'exemplaires, non?
Ah, en impression?
Oui, en impression.
Alors celui-là, il a été imprimé, je crois, à 3 000 exemplaires. Si ma mémoire est bonne, je crois que c'est ça.
D'accord. Ouais. Et vous avez déjà un bon retour parce que vous avez fait peut-être des salons pour le.
Alors celui-là, j'ai des salons qui sont programmés. Ouais. Bah, il vient de sortir, donc il y a les salons. Je vais à Saumur en avril. Je vais à Châteauroux aussi.
Alors j'allais dire, est-ce que vous avez déjà vos lecteurs un peu fans ou vos inconditionnels qui vous reconnaissent?
Alors j'ai quelques centaines de fous comme moi qui me suivent. Qui me suivent depuis le premier, ce qui est assez assez agréable en fait, de se reconnaître un peu comme une tribu. Et je les recroise régulièrement, donc soit sur les salons ou en signature, voilà, ça dépend.
Alors Salomé,
écrivez-vous d'autres livres que les romans?
Pour l'instant non. Pour l'instant, non. J'avais fait un travail d'accompagnement j'avais travaillé avec un photographe en fait. J'avais écrit des textes sur des photos, donc qui avaient été exposées. L'exercice était intéressant, mais pour l'instant,
l'exercice de style imposé, oui, du coup peut-être trop imposé.
Peut-être trop imposé, c'est
ça. Par rapport à ce que vous me racontez.
Oui, voilà. Non, j'écris pas. Pour l'instant, j'écris que du roman. Là, j'ai sorti un livre où on est plusieurs. J'ai co-écrit une histoire. Là, c'était aussi très intéressant de le faire.
Ah oui, à deux plumes.
Ouais, sur quatre tomes. Donc ça, c'était intéressant.
L'univers du cinéma. peut-être.
Peut-être, on verra. Je touche du bois.
Non, parce que je trouve que c'est votre dernier roman. C'est vraiment, il y a un univers un peu, ce que je vous disais tout à l'heure, où les images sont très visuelles. Enfin, il y a quelque chose de très visuel. Ouais. Et je me dis que c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait s'adapter.
Oui, oui. Il y a des discussions.
À suivre.
Il y a des discussions, voilà.
Alors, on n'en dit pas plus. Eddie.
Avez-vous une idée de votre prochain roman?
Oui.
Ah, tu vois, ça
ne l'arrête jamais. Il a déjà commencé.
Ça.
Oui, bah, c'est le problème.
C'est déjà commencé.
Oui, je m'étais dit, je vais me reposer au moins 6 mois. Et en fait, je me suis réveillée un matin et j'avais tout. J'avais le titre, j'avais le plan.
L'idée, c'est ça. C'est que quand le roman est déjà prêt dans votre tête. Toute la trame
est
déjà prête.
C'est lui qui demande à sortir, en fait.
Parce que souvent, on entend des écrivains, bah oui, non, c'est au fur et à mesure de l'inspiration, j'ai changé, etc. Même des romans policiers, d'ailleurs. Vous, la trame est faite. Vous avez
alors,
globalement...
ça peut toujours évoluer, hein, ouais. mais en général, j'ai une thématique. Très vite, autour de la thématique, j'ai mes personnages principaux. Donc, je note tout de suite. Et ensuite, j'essaye, parce que je suis quelqu'un de très, très désordonné. Et donc, j'ai beaucoup de mal à m'organiser. Donc, il faut absolument que je me discipline de ce côté-là. Donc, en fait, j'essaye d'écrire au moins un petit résumé de chaque chapitre
synopsis,
pour voir
quoi.
Comment ça s'articule. Et ensuite, je commence. Et si je change en cours de route de trois choses, c'est pas dramatique tant que je retourne sur mes pattes à la fin. Mais en tout cas, je commence jamais à l'aveugle, ça c'est sûr.
Alors moi, j'ai une dernière question. C'est est-ce que ça, alors pour moi, c'est pas un métier, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre? Je vous parlais de Violette qui est très intéressée. Mmh. Est-ce qu'elle peut dire, bah tiens, je vais aller dans un cours d'écriture et je vais apprendre à devenir écrivain?
Alors moi, je crois pas du tout à ça. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Alors, je sais qu'aujourd'hui, les ateliers d'écriture fleurissent.
Ouais, ouais.
Donc, je ne sais pas. Là, c'est difficile. Après, je crois que quand on a... tant qu'on peut faire autre chose, il faut faire autre chose. C'est le jour où on ne peut rien faire d'autre. D'ailleurs, à ce moment-là, les apprentis écrivains, je les incite à lire « Lettre à un jeune poète » de Rilke,
qui
est vraiment le livre magnifique. Et quand on se pose la question de savoir si on veut écrire dans sa vie, je pense qu'il faut le lire. Violette, tu es peut-être encore un petit peu jeune, mais en tout cas, il faudra que tu le lises. Et en fait, tu dois faire ce métier uniquement si tu te dis que tu ne peux rien faire d'autre. Et moi, j'ai mis très longtemps à l'accepter. Donc, j'ai eu beaucoup de métiers dans ma vie.
Oui, vous n'avez pas fait que de l'écriture.
Ah non. J'ai osé me mettre en accord avec ce en quoi je croyais depuis mon enfance à 35 ans.
Ah, d'accord.
Et j'ai perdu... Oui, professionnellement, j'ai perdu du temps puisque j'ai commencé à travailler très tôt, à 19 ans. Donc, entre 19 et 35, je courais après quelque chose, je ne sais pas quoi. Sauf que je savais très bien ce qu'il me fallait, mais j'osais pas le faire, en fait.
La psychanalyse.
Voilà. Finalement, ça m'aura quand même pris du temps, même avec de la psychanalyse.
Mais ça aide.
Oui, mais j'ai fait, mais vous voyez, ça aurait quand même pris du temps. Quoi.
Écoutez, je vous remercie. C'est la fin de l'émission, enfin de la première partie.
Merci.
On est ravis de vous avoir rencontré.
Merci.
Et on vous souhaite, on croise les doigts pour votre dernier roman.
Ouais.
Et on vous suivra, ça c'est certain.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Au revoir.
Et donc, on va continuer en musique avec... alors, ça c'est une chanson qui va annoncer la suite, la deuxième partie de l'émission, puisqu'on va rencontrer... la maman de Maya, ils sont partis, eux, avec tout en famille, sont partis 8 mois, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Ils sont partis 6-8 mois découvrir en famille l'Océanie, la Chine, enfin, ils ont fait un très long voyage tous ensemble, ils ont déscolarisé les enfants, 3 enfants. Et du coup, Léo nous propose une chanson qui s'appelle La Maison du Monde d'Aldebert.
J'ai besoin de voir le monde bouger, moi. J'ai envie d'avoir des choses à chanter. J'ai besoin de voir de vrais gens jouer, moi. J'ai envie de croire, rire ou bien pleurer dans la maison monde. Dans la maison monde. Moi qui raffole d'épopées, j'ai beau mettre des échasses. Entre l'école et la télé, je ne voyage pas des masses. Mais notre cage d'escalier cache un petit bout de monde. Sur chacun de ces paliers, les origines se confondent. Alors je monte au premier étage, chez mes voisins créoles. Moi qui aime les voyages, enfin je décolle.
Mio Kaila, ça on fait.
Gade soleil là, clé de yela.
Nous sommes.
chevaux.
La tête ou pitchi, nous toute la pli-pitchi.
Nous qu'a grandi et puis l'amour.
Si la vie pas marché,
aïe 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 aïe,
il faudrait ou pousser.
Aïe 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 aïe. Moi qui rêvais de faire le tour de la terre en chanson, aujourd'hui je pars en croisière sans quitter mes chaussons. Écoutez les rires, les sons, les clameurs qui grondent. C'est une invitation à entrer dans la ronde. Alors je monte au deuxième étage chez mes voisins tziganes. Moi qui aime les voyages, je suis leur plus grand fan.
Ihr darf seine, richtig manchen spielen hier. Ihr will leben lassen auf einen in der Welt.
Paris à Fort-de-France, de Varsovie à Kinshasa. On se rit des distances, la musique c'est comme ça. Alors je monte au troisième étage et débarque au Congo. Moi qui aime les voyages, j'entre tout de go. Si on agrandit la maison en ajoutant des étages, si on agrandit la chanson, on prolonge le voyage. J'ai besoin de voir le monde bouger, moi. J'ai envie d'avoir des choses à chanter. J'ai besoin de voir de vrais gens jouer, moi. J'ai envie de croire, rire ou bien pleurer. Dans la maison monde, dans la maison monde, dans la maison monde, dans la maison monde, dans la maison monde.
Eh bien, nous revenons dans une deuxième partie sur Radio Tintouin, dans cette émission que nous avons appelée Fréquence Môme, parce que c'est tout simplement des enfants de l'école Notre-Dame Saint-Joseph qui ont préparé cette émission, la classe de CE2 CM1. Voilà, ils sont présents. Alors, les CE2 ont reçu Madame Boucher, écrivain, et maintenant nous recevons Madame Boisseau, la maman de Maya. Alors, eux, ils ont eu une aventure particulière parce qu'ils ont fait un très long voyage. Ils sont partis plusieurs mois. Toute la famille est partie pour découvrir une grande partie de l'Océanie. Vous allez nous raconter un peu tout ce grand périple. Et du coup, ben voilà, ça nous a intrigués et on voulait savoir un petit peu plus sur votre voyage avec les enfants et toute la famille. Et du coup, les CM1 ont préparé toute une série de questions. Alors voilà, on vous reçoit, Madame Boisseau. Heureux de vous recevoir à Radio Tintouin. Et puis, on va commencer tout de suite par la première question, c'est Samuel.
Lors de votre premier voyage, quel pays avez-vous visité ?
Eh bien, nous avons visité 8 pays. Nous avons commencé par la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, le Cambodge. Après, nous sommes allés sur l'Océanie, où nous sommes d'abord allés en Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, l'Australie, et nous avons fini par les Émirats Arabes Unis avant notre retour.
Alors, ouais, très très long voyage. Alors, on va voir justement combien de temps vous êtes parti, combien de temps a duré le voyage. Mais une question de Maverick.
Pourquoi avez-vous décidé de partir ?
Alors, tout d'abord parce qu'on est plutôt des grands voyageurs depuis longtemps. Nous en avons fait 18 ou 19 pays étrangers. La durée était aussi pour une question de facilité, mais aussi beaucoup pour la découverte des autres et des gens, de la culture, principalement.
Ah oui, alors 18 pays auparavant, ou en tout.
En tout.
Oui,
en
mais
tout,
pas dans ce voyage.
Pas dans ce voyage. Depuis, là, nous en avions fait 8.
D'accord.
Et on a fait certains pays deux fois. Et puis...
D'accord. Avec les enfants, toujours?
Toujours avec les enfants. Très peu avant.
D'accord. Donc déjà, des grands voyageurs. Alors, c'est Marius qui pose la troisième question.
Ce voyage en famille a-t-il été difficile et organisé?
Difficile organisé, non. Le plus dur, c'est de se décider à partir, je dirais, et surtout sur la durée. Il a quand même fallu 18 mois à peu près pour tout préparer, ne serait-ce que pour la partie médicale et la série de vaccinations.
Ah oui.
Mais sinon, dans l'ensemble, après, on a pris les points les uns après les autres et puis un petit peu d'organisation, quoi, c'est tout.
Et parce qu'il faut dire que vous avez 3 enfants.
Tout à fait.
Donc, Maya, qui est en CM1 cette année, donc elle est partie l'année de son CE1.
Elle est partie en grande section.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Excusez-moi, l'année de grande section.
Donc, Albin,
et Albin
qui est en 6e, il est parti en CE2. Et le plus grand, qui est là en 3e, il est en CM2.
D'accord, ils étaient en primaire.
Ils étaient tous en primaire. C'était aussi la raison du départ. C'était pour éviter d'avoir à gérer l'arrivée au collège, en fait.
Oui, d'accord. Et justement, l'arrivée par la suite, ils sont partis. Vous êtes partis combien de temps?
Là, c'était 6 mois.
6 mois. Et le retour a été facile? Le retour en classe, le retour dans la vie de tous les jours, le quotidien, le
travail. Ça a été difficile, le retour au quotidien. Déjà, on avait laissé la maison, donc il a fallu se réadapter à rester sur place tous les jours,
ouais.
Ce qui n'était pas le quotidien durant ce périple.
Vous étiez en mouvement tous les jours, quasiment.
On changeait de ville tous les 3-4 jours.
D'accord.
Voilà. Vraiment, on est resté une semaine sur place, mais c'était vraiment un besoin de repos, en fait.
Et tout ça était déjà programmé, quand vous disiez on restait 2-3 jours, c'était déjà prévu dans une espèce de timing qui était prévu dans le voyage ou c'était improvisé, on s'y plaît donc on reste?
Alors il y avait vraiment des sites que l'on voulait visiter,
ouais,
donc
ceux-là,
les incontournables, et puis en fonction des transports, de plein de choses sur place qui se passent, les aléas un petit peu.
Il faut s'adapter.
Voilà, c'est ça. Mais le circuit était plus ou moins programmé à l'avance, ouais.
Ouais. Et j'allais dire avec des enfants, c'est plus raisonnable peut-être, non?
Sur la partie asiatique, les transports sont très faciles à organiser. Donc, on peut tout réserver du jour au lendemain. Il n'y a aucune difficulté de transport. On avait surestimé ce qu'il fallait mettre en place. Et en fait, pas du tout. Donc, ça a été plutôt facile après pour les transports.
Et la partie Océanie?
Alors, toute l'Océanie, et on l'a fait en camping-car.
D'accord. Donc, c'est plus facile.
C'était un peu différent pour la vie de tous les jours parce qu'il fallait beaucoup conduire.
Ah oui.
À l'inverse, où on se faisait conduire en Asie, taxi, tous les types de transport, là, il a fallu conduire beaucoup. Mmh. Et c'est plus difficile à gérer. Mmh. On verra pour la suite.
Alors, Tom.
Combien de temps avez-vous mis
a-t-il duré, le voyage a-t-il duré? Vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais...
Eh bien, on est parti juste après le premier de l'an, le 5 janvier, et nous sommes rentrés le 26 juin. Une semaine avant les vacances d'été.
Donc, les 2 mois, c'était la remise en forme avant de repartir à l'école, quoi. Il fallait cette grande transition de 2 mois.
On a repris aussitôt, mais eux, ils ont eu les...
Vous avez repris le travail ou pas?
Tout à fait. Moi, j'ai repris le 7 juillet.
Ah oui, d'accord. Alors, c'est Léo qui nous pose la question suivante.
Avez-vous rencontré des personnes célèbres, étonnantes?
Des personnes célèbres, non. Mais étonnante, on en trouve tout le long du parcours, en fait. Les gens dans les villages, les gens qui souhaitent découvrir les étrangers, comme nous, on souhaitait aussi les rencontrer. Donc, en fait, on s'est retrouvés systématiquement face à des gens très ouverts.
Oui, l'accueil a été...
Alors, surtout avec des enfants, je pense que ça ouvre beaucoup, beaucoup de portes.
C'est ça.
Et
il y a un rapport de confiance qui est
tout à fait
immédiat.
Les enfants apportent beaucoup, beaucoup de facilité de choses dans le contact avec les adultes. Dans l'ensemble des cultures.
Il y a un pays où vous êtes senti vraiment mieux accueilli qu'ailleurs?
Ça, c'est différent. Nous, on n'a pas tous ressenti la même chose, en fait. Hein.
Ouais.
Moi, je suis très, très attachée au Cambodge.
Mm-hmm.
Voilà, je dirais que mes enfants, ils étaient très à l'aise en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce qui est plutôt des cultures proches de ce que l'on peut
bien
vivre
sûr.
Ici.
Oui, plus occidentale.
Mais dans les méthodes de vie, les Vietnamiens sont plutôt... plus réservés, mais ils ont vraiment un très très grand cœur aussi.
Ah oui.
Mais voilà, c'est la culture, il y a beaucoup de choses qui diffèrent, et puis suivant les périodes de l'année, on arrivait en plein nouvel an.
Ah oui, c'est ça, au mois de janvier.
Alors, on est arrivé en plein Nouvel An, la fête du Tet pour les Vietnamiens au mois de février au Vietnam. Et c'est vraiment une très grande fête. Et avec les enfants, c'est vrai que ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
C'est une richesse incroyable. Ils en reparlent, j'imagine, encore.
Tous les jours, il y a toujours un petit...
Une petite allusion. Sur ce qui s'est passé.
Oui, tout à fait.
C'est formidable. Alors, c'est Adam.
Où dormiez-vous ?
Alors, tout ce qui est parti Océanie, vous l'avez dit, dans le camping-car,
tout
je suppose.
Tout à fait. Alors, en Océanie, on a retrouvé en Nouvelle-Calédonie la fille d'un de mes collègues qui travaillait donc en Nouvelle-Calédonie. On était chez eux. On a dormi principalement dans des chambres d'hôtes ou dans des... chez l'habitant. Et puis, suivant les lieux, après, en hôtel ou... Voilà, mais des maisons sur pilotis, des bateaux... Dans des trains, enfin bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de types de lieux où nous avons dormi. Oui.
Bon, alors c'est Sophia.
Avez-vous mangé, Avez-vous mangé de la nourriture bizarre et insolite ?
Ah oui, parce que vous êtes allé dans des pays où on ne mange pas forcément la même chose que nous, donc bizarre.
Oui. Alors bizarre, oui, on ne savait pas toujours ce que l'on mangeait. Nous ne sommes pas difficiles, donc on ne savait pas toujours, mais on nous a proposé souvent beaucoup d'insectes grillés en Asie, du crapaud, du serpent, du chien au Vietnam, pas mal de choses que l'on a peu l'habitude de manger ici.
D'accord.
On n'a pas tout goûté.
Alors Zoé, pour une dernière petite question avant de faire une pause musicale.
Quel est le pays que vous avez préféré ?
Alors moi, personnellement, je suis très, très attachée au Cambodge.
Oui, vous le disiez
voilà,
tout à l'heure.
Tout à fait. La culture,
vous connaissiez déjà, peut-être. Non.
Non, mais... Voilà, les paysages, l'approche de la population. C'est une population qui a quand même beaucoup souffert, qui sont relevées très, très vite et qui ont vraiment beaucoup de choses à partager. Donc ouais, moi, le Cambodge, c'est mon petit coup de cœur. J'y retournerai...
Et chez les enfants ?
Volontiers. C'est différent suivant les âges.
D'accord.
Albin aime beaucoup la Nouvelle-Zélande, Samuel aussi parce qu'il a fait beaucoup de plongées.
Ouais.
La barrière de corail, tout ça, ils ont beaucoup aimé. Après, je sais pas.
Maya, tu nous le diras tout à l'heure.
Voilà, Maya nous dira.
Ton pays préféré.
Son pays préféré, ouais, pas de souci.
Alors, on va faire une petite pause musicale. Vous savez, c'est les enfants qui ont choisi la musique. Donc là, on écoute Maître Gims. Ça s'appelle Sapé comme jamais.
Sapé comme jamais, sapé comme jamais, des jamais, sapé comme jamais, jamais. En casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guigolambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. Ça ou elle façon Aladdin. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais.
Contrôle la maison, apprécie mon parcours. Un des catacombes, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos, pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gims, pas convoitisé. Charlie Delta localisé. L'embilation focalisé. Zappé comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, imbécile. La concurrence à ma vessie. Loubouzano et Hermès. Oui, vite ton sac, je vais la recette.
Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi. Les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais. Sana Brazza,
Bamako na Dakar, Godless Nani Santeo, Godless Medic na Darcie, Godless Bilou na Demdemo, Godless Juna Jana na Ça fait comme jamais.
On revient sur Radio Tintouin avec Madame Boisseau qui nous raconte ce long voyage qui a duré 6 mois. Elle est partie en famille avec ses enfants, toute sa famille, pour découvrir une partie de l'Océanie et j'allais dire le sud de l'Asie, hein, si je situe un peu géographiquement. Voilà, et donc les enfants de Notre-Dame, Saint-Joseph posent des questions à Madame Boisseau et c'est Christopher qui continue sur les questions.
Avez-vous vu des animaux dangereux ?
On avait la connaissance dans certains endroits qu'il y avait des animaux dangereux, on ne les a pas rencontrés, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Quel type d'animaux ? Nous avons eu en Australie les cassowaries, donc c'est une sorte de grosse autruche sauvage, qui est plutôt très connue et très agressive. Quelques crocodiles de mer aussi en Australie, mais bon, on a eu plutôt des bonnes rencontres avec des animaux plutôt agréables, sinon.
Les kangourous,
les koalas, et puis les éléphants, principalement.
Après, j'allais dire, il ne faut peut-être pas sortir trop des sentiers. Il faut rester sur les sentiers battus, sur des choses avec des enfants, en plus.
Oui, et puis bon, après, tous les endroits qui étaient un petit peu plus risqués, c'est relativement bien marqué. Il faut aller prendre, faire attention pour se baigner. Les endroits qui étaient un peu... Il y a beaucoup d'endroits qui sont non baignables. C'est réellement qu'il y a des raisons et qu'il ne faut vraiment pas y aller.
Tout simplement les respecter.
Ouais.
Ah ben voilà Maya, votre fille Maya.
Tout à fait.
Alors elle me pose une question, puis après moi je vais lui en poser une.
Quels sont les moyens de transport que vous avez utilisés ?
Alors on a utilisé beaucoup de moyens de transport. Le premier, la marche à pied, qui a été quand même une grande partie. Mais aussi le taxi, les bus couchettes, les trains couchettes, le bateau, les avions, enfin... Beaucoup de transports, modes de transport locaux. Donc après, en Asie, les tuk-tuk, tout ce qui est sancto. Tous les moyens sont bons, en fait, pour se déplacer. C'est plutôt facile. Donc, on lève la main, il y a toujours quelqu'un qui s'arrête.
Ah oui, vous avez fait du stop également, alors ?
Pas sous forme de stop, mais il y a toujours quelqu'un au bord de la rue pour vous renseigner ou pour vous emmener un peu plus loin, jusqu'à la station de bus ou à la gare. Donc, c'est plutôt très, très facile.
Alors Maya, dis-moi, ton pays préféré, toi, c'était lequel ?
Moi, c'était l'Australie avec la barrière de corail et la Nouvelle-Zélande.
Comme ton frère. T'as fait de la plongée, là-bas ? Tu as vu la grande barrière de corail ?
Oui, et c'était beau.
C'est très beau. T'en gardes un beau souvenir. Mais grande section, tu t'en rappelles bien encore ?
Oui.
J'imagine qu'il y a eu un album, enfin quelque chose de...
On a mis en place un blog tout au long de...
Voilà, que la famille puisse vous suivre.
Tout à fait, pour que tout le monde puisse suivre, et puis pour qu'il n'y ait pas de difficultés entre les décalages horaires, et puis que c'est plus facile pour tout le monde, je dirais. Et les écoles respectives aussi suivaient un petit peu, les classes respectives de chacun suivaient un petit peu le parcours.
Alors, on va avoir une question sur la classe, sur l'école. Merci Maya. Alors, on va écouter Enoch.
Que faisiez-vous dans la journée ?
Alors, nous étions en vacances, effectivement, mais
C'est 6 mois de vacances.
C'était pas totalement que des vacances.
Ouais. Déjà... Alors, les enfants, on va en parler tout à l'heure.
Voilà, on va en parler
du travail,
tout à l'heure au niveau de l'école.
Le reste du temps ?
Eh bien, on programmait beaucoup les activités de la journée, les déplacements, les hôtels où on dormait, on n'avait pas trop réservé, donc il fallait réserver au fur et à mesure. Et puis, toute la partie après organisationnelle, les repas. Une fois que tout ça a été fait, nous passions sur la partie agréable de la chose et les visites. Voilà.
D'accord.
Bon. Donc, c'était la même vie qu'ici, sauf que c'était pas les mêmes choses qu'on organisait, quoi.
J'allais dire, c'est un peu comme quand on est en vacances, on a 3 semaines, on organise...
On a envie de faire beaucoup de choses, donc il faut aussi être organisé pour pouvoir en profiter aussi par la suite. Quoi.
Avec un budget en plus.
Avec un budget. On s'était donné un budget de départ, donc il a fallu aussi le respecter pour tenir sur la durée.
Sur la durée. Ah, donc c'est une parenthèse aussi professionnelle.
Tout à fait. Ouais, c'était une
donc
bonne
c'est quelque
parenthèse.
Chose qui se prépare assez longtemps à l'avance, un gros
oui,
projet.
Oui, c'est un gros projet, oui.
Alors, Ahmed.
Quel type de monument avez-vous vu ?
On a vu beaucoup, beaucoup de monuments. En fonction des pays, c'est différent. Sur toute la partie asiatique, beaucoup de temples, les palais royaux, etc. Et beaucoup de nature, en fait. Tout l'espace naturel, les cascades, après, c'était pas que des monuments, mais vraiment la nature est quand même relativement différente. Et beaucoup de découvertes.
Ouais. C'est très, très riche. Alors, Maxime, devant le micro, vas-y.
Comment les enfants ont-ils fait pour aller à l'école ?
C'est la grande question.
Ouais, c'était la grande difficulté. La difficulté aussi pour nous, vu que nous ne sommes pas du tout du monde de l'enseignement. Donc, la marraine d'Albin était institutrice. Elle m'a beaucoup aidée à préparer les programmes de chacun. On est parti avec des clés USB.
Oui.
Et on est parti avec quelques cahiers de vacances. Et les maîtresses ont aussi fait en classe un petit peu, elles m'ont aidée à faire un programme de français et de maths.
Alors, vous aviez une maîtresse
C'est des amis.
Ah, d'accord. Qui vous envoyait
Non, on est parti avec. On est parti et puis on a abandonné au fur et à mesure les cahiers pleins.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Ah, très bien.
Mais c'était une très grosse difficulté pour nous.
Ouais, vous me disiez l'autre jour que c'était systématiquement 2 heures de travail tous les jours. Alors, avec un rythme régulier.
On n'avait pas prévu ça au départ et on a été obligé de le mettre en place parce qu'en fait, déjà, il a fallu comprendre que les parents étaient aussi enseignants pendant ces moments-là.
Ouais.
Ils n'étaient pas très ouverts à ce que leurs parents leur fassent la classe. Donc, ça a été difficile au début. Et dès qu'on arrêtait une journée, ça devenait très compliqué.
Donc, il ne fallait pas casser le rythme.
Il ne fallait pas casser le rythme. Donc, on s'est vraiment maintenu sur 2 heures par jour, tous les jours, sans arrêt.
Sachant que le reste du temps, c'était culturel.
Tout à fait. Voilà. Donc, ils ont fait français et maths. Et puis, les langues, c'était la langue du pays. Et puis, l'histoire et la culture ont apporté le reste, quoi. Mm-hmm. Toute la science, etc.
Absolument. Alors, Christophe.
Si vous deviez refaire ce voyage du même type, où iriez-vous ?
On a plein d'idées.
Alors, vous seriez prêt à repartir ?
Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, je pense qu'on on a hésité sur la durée et on aurait dû partir plus longtemps déjà. Mais après, on ne connaissait pas du tout comment on allait s'organiser. Ça aurait pu être possible de partir plus longtemps. Au jour d'aujourd'hui, on a plein d'idées où on peut partir. Chacun amène maintenant ses propres envies, donc l'Égypte ressort beaucoup, le Canada, moi j'aimerais bien faire les îles Féroé, par exemple.
Mais sur le même type de voyage, partir plusieurs mois ou sur un voyage de quelques semaines
Partir. Après, il faut une grande organisation, plus ils grandissent, plus ça devient compliqué avec la scolarité.
Mais partir par contre sur un beau voyage, d'ailleurs de 3 semaines à un mois peut-être, avec un pays,
tout à fait,
un objectif. Quoi.
Voilà, les objectifs, voilà, chacun détermine un petit peu. Et en fonction de la saison à laquelle on partirait, les pays sont différents.
Bien sûr.
Et donc voilà, il y en a beaucoup d'idées. Mais je pense que l'Amérique du Sud sera aussi une belle découverte sur une grande durée.
Vous pensez que vous avez insufflé ça aux enfants, cette curiosité ?
Je pense que ça a beaucoup apporté sur comprendre l'intérêt des langues. Pourquoi il faut parler anglais, pourquoi il faut parler au moins espagnol ou allemand, ça apporte beaucoup de choses sur la diversité des gens, quoi, tout simplement.
C'était la chanson qu'on avait passée, La Maison du Monde.
D'accord.
Bien, écoutez, je vous remercie, c'est la fin de l'émission.
Merci beaucoup.
Je remercie Radio Tintouin pour nous avoir accueillis. Je remercie les enfants, parce que ça a été un peu compliqué. Voilà, il faut s'organiser, il faut préparer, et puis il faut surtout arriver à faire silence, arriver à s'écouter, donc... C'était un challenge qui a été, mon avis, très concluant. Donc, ce sera à renouveler. On vous remercie. On vous dit à bientôt, j'espère, sur les ondes de Radio Tintouin avec l'École Notre-Dame. Et on va écouter ce qu'il faut ramener. Ils l'ont ramené. Ramenez la coupe à la maison. Et puis, on vous dit à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.
Merci beaucoup.
Casser les manches comme Samuel M.T.T. Casser les manches comme Samuel M.T.T. Casser les manches comme Samuel M.T.T. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Et s'il y a drap, on peut toujours appeler Benjamin Mendy. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. 20 ans après. gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Ramenez